Denis Gravel, comment vas-tu?
Je l'ai bien dur, puis pas de la bonne façon.
T'arrives de chez le dentiste?
T'as froid?
Je l'ai bien dur. Je t'en ai du fret. Je sais pas pourquoi, parce que ce matin, c'est quand même moins frisquet qu'hier. Là. Mais là, je l'ai dans les os à matin, puis je sais que le rhume s'est invité chez nous depuis une semaine ou deux. J'ai l'impression que je suis comme le prochain sur la liste.
Ouais.
Je vais vite pas toutes les mouchoirs, Max.
Fais attention, tiens-toi loin de Max Lavoie.
Ouais, t'as ces vieux juste là. C'est vraiment le fun.
Ouais. Je pense que c'est trop tard pour moi.
J'ai trouvé la problématique de Max hier, pourquoi il a constamment la grippe, parce qu'il doit être rendu à sa troisième depuis le début.
C'est ma troisième en un mois.
Oui, c'est ça exactement. Okay. C'est le karaoké.
Ouais.
Il va cracher dans le même micro que 100 personnes un soir bien chaud.
On vous avait dit de ne pas faire ça pendant la pandémie. Hein?
Ben, c'est ça.
Écoute pas, gros style. Ben oui.
Le bar le Kirouac.
Le défunt bar le ben Kirouac, oui. Effectivement.
Qui avait fait la soirée karaoké, qui avait déclenché une épidémie ici dans la ville de Québec. En bande de toto, tout simplement. Hey Denis, on vient d'avoir une conversation justement avec un tireur d'élite canadien, Wally, qui nous expliquait les longs et larges de ces conflits-là. Et là, on a un texto qui est rentré, je trouve intéressant. Il dit, ça aurait été un autre président que Trump, nous en parle, on n'en parlerait pas autant. Sais-tu, moi, je suis pas d'accord, l'enlèvement d'un président dans son pays, en plein week-end, amené dans une prison à Brooklyn, que ce soit Biden, que ce soit Clinton, que ce soit Obama, que ce soit Trump, d'après moi, on n'en parlerait pas mal.
Absolument, il n'y a pas d'acharnement médiatique là. Je comprends qu'il y a des gens qui trippent sur Trump et qui le voient dans le soupe. Là, mais il faudrait quand même pas exagérer. Quand Bush a décidé que c'était l'Irak qui était ciblé après les attentats du 11 septembre, beaucoup de gens ont dénoncé la façon, beaucoup de gens ont dénoncé le manque de rigueur intellectuelle derrière le raisonnement. D'ailleurs, l'Irak avait absolument rien à voir avec les attentats du 11 septembre, mais Bush fils voulait compléter le travail de Bush père. Il a vu une opportunité et le pétrole mène le monde. Si vous voulez donner une qualité à Donald Trump, son manque d'intelligence déshonore son manque de subtilité, ce qui fait en sorte que lui a probablement été le premier à nous le dire carré. Je fais pas ça pour des raisons humanitaires, je fais ça pour mettre la main sur une réserve de pétrole qui est pas exploitée. Donc, il y a un manque d'hypocrisie là qu'on doit peut-être souligner, mais c'est un manque d'hypocrisie aussi qui est dangereux dans le jeu politique international, parce qu'à partir de ce moment-là, puis Wally est pas le seul à prendre cette traque de réflexion-là, de dire, à partir du moment où les États-Unis ne respectent pas les règles du jeu, c'est un drôle de signal qu'on donne à des gens qui ont des mauvaises intentions à la grandeur du globe. Et je le répète, moi, ma crainte principale dans ce dossier-là, c'est de voir une escalade où des gens comme la Chine ou la Russie se disent, il n'y en a plus de règles de jeu pour les États-Unis. Ben nous autres non plus, il n'y a plus rien qui va nous empêcher de faire ce qu'on veut faire. Et il faudra regarder aussi c'est quoi la suite d'idées pour Donald Trump en ce début d'année 2026. Là, c'est-tu de s'annexer le Groenland, le Canada, de faire tomber le despote en Iran? Je veux dire, c'est quoi la prochaine étape? Est-ce que c'est pour gagner un prix Nobel de la paix en trichant aux règles du jeu pour enlever une coupe de crotté sur à grandeur du globe? Mais encore une fois, il ne faut pas être naïf, c'est des gestes qui auront des conséquences. Et historiquement, quand les États-Unis ont voulu intervenir à l'international, les problèmes se font sur deux fronts. Le premier, évidemment, c'est au niveau du commerce international. Ces richesses-là, il y en a plusieurs qui veulent avoir le contrôle là-dessus et ça crée des incidents. Puis à partir du moment où les États-Unis triche pour mettre la main sur une réserve qu'on ne peut pas exploiter tout de suite en passant, hein, remettre ça en état parce que ça a déjà fonctionné tempête pour le Venezuela dans les années 60 ou 70. Ça va prendre des années et ça va prendre des milliards de dollars. Mais l'autre chose, et ça, c'est souvent ce qui arrive quand on intervient dans des pays étrangers. On s'en va libérer le peuple, on se fait des gros high-five, puis après ça, on crisse notre camp. Qu'est-ce que ça donne comme impression aux gens qui sont là-bas? Les États-Unis sont venus, ils ont ramassé ce qu'ils voulaient, puis ils nous ont laissés dans le trouble.
Ils nous ont laissés avec une nouvelle dictature.
L'effet de ça, c'est pas au départ qui se fait sentir, mais c'est comme ça que s'est créé le personnage d'Oussama Ben Laden. C'est dans des circonstances similaires où on est intervenu en Afghanistan, puis après ça, on a tout laissé à terre, puis on est reparti. c'est quoi l'impression que ça donne à quelqu'un qui grandit dans ce contexte-là? Ben, les Américains, c'est l'oppresseur, c'est l'ennemi à abattre. Sont venus toutes foutre le bordel avec la prétention de nous libérer. Puis après ça, ben, sont retournés dans leur coin puis ils ont continué d'exploiter nos richesses. Donc, on crée des narratifs qui sont faits sur mesure pour les gens qui n'aiment pas notre mode de vie, pour les gens qui n'aiment pas les États-Unis. Il ne faut pas penser qu'on est à l'abri parce qu'on est en guerre tarifaire avec les États-Unis présentement, là. Pour les gens qui sont ailleurs, Canada égale États-Unis, États-Unis égale Canada. Au-delà de la guerre des tarifs, au-delà du fait que Mark Carney, c'est pas Donald Trump. Faut pas être nono, il y aura des conséquences à tout ça. Puis si c'est pas dans la prochaine année, c'est peut-être des conséquences qui vont être là dans 5 ans, dans 10 ans. Mais il y a des façons de faire. À chaque fois qu'il y a un trou de cul de moins qui dirige un pays, moi je suis bien content. Mais il faut admettre que ça n'a pas été fait de la bonne façon et le manque de subtilité de Donald Trump va porter flanc à ce que plusieurs répliquent d'une façon un peu brutale.
Oui, mais c'est ça, ça va être vraiment plus long terme qu'on va pouvoir cibler l'impact de ce coup d'État-là, exact. Parce que ça en est un. Parce qu'est-ce que dans 7, 8, 10 ans, on va se réveiller puis la Russie va être redevenue l'URSS, Taïwan va être aux mains de la Chine, le Groenland va avoir été conquis par les Américains, puis les États-Unis vont tenter justement de s'approprier des ressources naturelles au Canada ou au Mexique, ça se peut, là. Ça se peut qu'on se réveille avec cette mauvaise page d'histoire-là dans 10 ans.
Parce qu'à partir du moment où les États-Unis placent un pion pour faire la suite des choses au Venezuela, que la personne soit un bon ou un mauvais politicien, que la personne soit bonne ou mauvaise pour le peuple, les États-Unis s'en fichent. Et historiquement, c'est le cas. Si c'est un despote, mais c'est un despote qui fait en sorte qu'on peut exploiter les réserves pétrolières, ces despotes-là, les États-Unis, ça les dérange pas beaucoup. Et ça, ça laisse des traces dans les populations qui grandissent dans ce contexte-là.
On creuse des trous immenses aussi dans les sociétés où il y a intervention de ces pays-là, parce que, comme tu dis, ils s'en foutent carrément. J'ai hâte de voir aussi avec l'Afrique où la Russie et la Chine sont ultra présents par rapport à des ressources naturelles où ils abusent de cette bonté-là de gens qui n'ont jamais rien eu, puis du jour au lendemain, ils ont des hôpitaux, ils ont des écoles, tout payé par ces pays-là. Puis au-delà de ça, c'est que la fracture géopolitique était déjà tellement présente depuis des années. Là, ça ajoute la convention occidentale qui change. Parce qu'avant, nous autres, on avait cette protection-là, ce genre de dôme, pour les bonnes raisons, de fer-là qui nous protégeait en disant ben, « c'est pas nos mœurs, c'est pas nos valeurs ». Puis on vient de sacrer un grand coup de pied là-dedans. Puis il y a la portion Canada aussi. Où est-ce qu'on va se placer? Où est-ce qu'on va se placer face à ce qui est shaké comme un tremblement de terre en ce moment? On n'a pas vraiment d'avance au niveau militaire dans certains spectres. On s'est toujours appuyé sur les États-Unis. On commence à se dissocier un peu de la façon dont on intervient. Comment est-ce qu'on va être capable d'être un leader, ne serait-ce que pour notre pays puis nos citoyens?
Je pense qu'étant donné qu'on est dans un contexte économique difficile, la stratégie de Mark Carney pour l'instant, c'est de dire « moi, je m'en mêle pas ». La réaction est très, très, très timide. On attend de voir comment les choses vont se placer. Puis je pense que c'est la réaction qu'on doit avoir dans ce genre de circonstances-là. C'est une guerre qui nous dépasse de toute façon. On n'est pas obligé de s'impliquer dans ces dossiers-là. Puis c'est pas nous autres qui s'est comporté au niveau international comme un éléphant dans un magasin de porcelaine.
Ça va être judicieux de travailler dans l'ombre ces dossiers-là et non pas là, sur la place publique.
Et se perfectionner. On ne doit pas oublier, nous, que ce qu'on voit actuellement, puis en n'ayant pas un pied là-dedans, puis en se positionnant pas, puis en prenant pas les devants, ça nous donne du temps aussi pour nous placer nos trucs.
En effet.
Puis je pense que l'armée canadienne gagne à être l'armée qui va faire la job humaine, puis c'est souvent ce qui arrive. Là. Mm-hmm. Tu sais, quand on dit on va aider la population, puis tout ça, ben souvent, c'est l'armée canadienne qui va aider ces transitions-là, alors que les GI américains sont déjà partis jouer les héros ailleurs.
Ah, c'est ça, sont partis vers d'autres. Je reviens plus terre à terre, Denis, avec la ville de Québec. On a déjà le pont de Québec qui est rouillé, et là, ben on a notre deuxième pont de Québec, l'escalier du Faubourg, qui est un beau tas de ferraille entre la basse ville et la haute ville.
Ouais. J'ai passé 20 minutes sur le Facebook de Ticoc Larouche ce matin pour voir quel genre de vidéo cet individu présentait. Si c'est rendu ça nos sources de crédibilité,
on a des
pour
difficultés.
Les infrastructures, que ce soit à Québec ou ailleurs, ouais, on est vraiment dans le trouble. je sais que je me ferai pas d'amis à ben non, Québec aujourd'hui chez les grugeurs de Bruno Marchand, mais je m'en fiche un peu. Je pense que je vais faire plus confiance à la ville de Québec qu'un ticoun qui partage des vidéos bizarres où on commence avec l'hymne national puis le salut militaire pour un parti que je ne connais pas qui dit qu'au Canada on est pire qu'au Venezuela, et l'autre qui se dit ingénieur et qui dit, et je cite, avoir travaillé sur des milliards de projets. C'est-tu des projets de milliards de dollars ou littéralement sur des milliards de projets? Ça pue la crédibilité à plein nez. Je sais que c'est facile de dire que tout est scrap à Québec et
ouais, ouais,
qu'on met en danger des vies, mais là, on a deux ticlins qui, ensemble, ont pas la crédibilité d'un carré au Rice Krispies, mais parce qu'on aime le narratif, on va s'en sacrer, puis là, on va s'arracher les cheveux, puis Québec est une ruine. Fuck off! J'embarque pas là-dedans.
T'embarques pas là-dedans,
non.
Parfait.
Non.
N'empêche que c'est les 10 ans du décès, c'est le triste anniversaire, les 10 ans du décès de Jean-Paul Lallier.
Oui.
C'était hier, le 5 janvier, donc il est décédé le 5 janvier 2016. Comme legs, à l'heure actuelle, on avait laissé le parc Jean-Paul Lallier. La fontaine, malheureusement, ne fonctionne plus.
Et puis la dernière affaire importante qui est survenue dans ce parc-là, c'est un meurtre.
Oui, exactement.
Ouais.
Et on sait à l'heure actuelle aussi qu'il y a énormément d'itinérants qui profitent de cet endroit-là, justement, pour se loger, se protéger du froid, là, notamment
ouais,
sur l'espèce de préau qu'il y a là, à l'entrée du parc. Après 10 ans du décès de Jean-Paul Lallier, est-ce qu'on a fait un bon travail dans Saint-Roch ou est-ce qu'on a à reprendre justement le flambeau que Jean-Paul Lallier nous a laissé?
J'ai une vision un peu tronquée de Jean-Paul Lallier parce que quand je suis arrivé à Québec, moi, ce que j'ai vécu, c'est les dernières années de
ouais,
Jean-Paul Lallier, des années où il avait les dents serrées, refusait systématiquement de parler à des journalistes extérieur à Radio-Canada.
Parlait plus à l'élite. Là.
Ouais, un maire aigri, belliqueux. Moi, les grandes visions de Jean-Paul Lallier, puis je sais que La Bombe, je sais que Marchand font énormément référence à ces années-là que je n'ai pas connues à Québec. J'ai vraiment connu le dernier bout de Jean-Paul Lallier où il n'a pas brillé, mettons, de tous ses feux. Le parc Jean-Paul Lallier, je sais que ça faisait partie d'une vision pour Saint-Roch. Je sais qu'on s'est beaucoup aidé avec les subventions, entre autres, pour les développeurs de jeux vidéo. On le dit depuis déjà quelques années, Saint-Roch, c'est Québec. Et dans les deux cas, on manque de vision. Le premier endroit où le manque de vision va paraître, ben c'est où tu as du cosmétique qui a été fait puis que ça tient un peu avec de la broche. Pour reprendre un peu la vision de l'escalier dont on parle ce matin. Puis c'est évidemment, ben à partir du moment où tu as des problèmes de santé mentale puis des problèmes de sans-abri qui se multiplient, ben la première place où ça va péter, c'est Saint-Roch. Mais là, de plus en plus, on parle du Vieux-Québec où on a des incidents qui ressemblent de plus en plus à ce que ça a été le début de la pente descendante pour Saint-Roch. Il y a des résidents du Vieux-Québec qui se promène plus le soir, qui se promène plus la nuit, parce que justement, les problématiques de criminels, les problématiques de santé mentale se sont déplacées vers la Haute-Ville. C'est un manque de vision qui va s'étendre si on ne travaille pas à prévenir. Puis c'est le problème qu'on a eu à Saint-Roch, c'est qu'on n'a pas prévenu ce qui s'en venait. Peut-être que la pandémie, c'était difficile à prévoir, mais il faut que tu aies toujours 5 ans, 10 ans, 15 ans d'avance dans ta vision. De ce que je comprends, de ce qu'on m'explique, Jean-Paul Lallier avait une vision de 10, 15 ans d'avance. C'est peut-être ce qui manque présentement à Québec. Puis moi, j'aime la porte que Bruno Marchand a ouvert à dire, ben là, c'est peut-être le temps de recommencer à rêver. Mais j'attends ça, moi, des politiciens, de dire, moi, je m'en vais en politique parce que je vois très clairement dans quelle ville je veux vivre dans 10 ans, dans 15 ans. Puis quand on était en campagne électorale, ça semble si loin derrière. Hein, je vais vous parler de Sam Ahmad. Je veux dire, mais on a eu le...
Sam qui?
Sam Ahmad, que tout le monde cherche. Sam Ahmad et Bruno Marchand étaient venus en débat, en face à face. Puis la question qui ont eu le plus de misère? Puis c'est une question que je voulais absolument garder dans le débat, même si c'était pas la plus pertinente au niveau de l'actualité.
Vous, sais-tu, moi, je la trouvais la plus pertinente parce que je veux voter pour un politicien qui va répondre justement à cette question-là.
Ben, je suis un petit peu comme toi, Jeff, puis j'étais très curieux de voir comment allait se démarquer un Sam Hamad, par exemple, parce que je voulais qu'on parle de Québec dans 10 ans, dans 15 ans, puis je te dirais que c'est là que j'ai été le plus déçu, des deux côtés, hein, du côté de Bruno Marchand.
C'est là que Sam Hamad, me semble, lisait sa feuille puis qu'il se mêlait dans ses mots. Ouais. Oui. Ça a comme été le pire moment.
Alors que c'est le bout où, tu sais, la question dans 10 ans, dans 15 ans, dans le fond, c'est « j'ai un rêve ». Partage-moi ton rêve, partage-moi ta vision. C'est le temps de faire le speech du vendeur. C'est le temps d'envoyer la rondelle top net. Puis je trouve ça plate. Je trouve ça plate que ça. Tu sais, puis je veux juste revenir à l'escalier deux secondes. Tu sais, l'escalier, je trouve ça plate. Moi, que ce soit des citoyens qui disent, tu sais, c'est rendu lettre au point où on se demande si c'est sécuritaire. Tu sais, puis je comprends qu'on l'a patché, puis je comprends qu'il est sous surveillance, mais j'aimerais qu'on soit, je sais pas, trois coups en avant. Ce genre de circonstances-là, puis qu'on parle de l'humain, qu'on parle d'un quartier, qu'on parle d'un escalier, qu'on parle du vieux Québec, je veux dire, t'es obligé d'avoir de l'avance et de voir venir les problèmes. C'est vrai que le patchage, c'est pas la bonne solution. C'est vrai qu'il faut prévenir ce genre de choses-là. Ça veut pas dire qu'il faut dire n'importe quoi, n'importe comment, puis crier au meurtre. Mais il y a un manque de vision qui fait mal à Québec depuis de nombreuses années. Puis je pense que ce qui fait mal à du monde de mon âge, il y en a peut-être plusieurs qui nous écoutent ce matin. Là, dans
c'est
la...
se pencher pour ramasser quelque chose
entre,
à terre.
Entre autres choses, oui, oui. Particulièrement pour les gens...
attacher les lacets.
Les gens surentraînés comme moi. Là. Mais tu sais, quand on a vécu le 400e, quand on a vécu le festival d'été qui a explosé, quand on a vécu les premières années de la bombe, quand on a vécu la construction du centre Vidéotron, on a recommencé à rêver un peu à Québec, puis à voir cette ville-là plus grande qu'elle était, puis à aspirer à avoir une ville plus grande que ce qu'on avait. Mm-hmm. Et ce bout de rêve-là s'est évaporé. Puis je veux pas juste mettre ça sur le dos de Gary Bettman puis de la Ligue nationale de hockey, mais il y a un petit peu de cela aussi, tu sais. Ah, ben finalement, les Nordiques sont presque revenus, mais ils sont pas revenus. Ouais. Finalement, le festival d'été a atteint un sommet. Puis rendu au sommet, ben qu'est-ce qui se passe? Tu peux pas nécessairement monter plus haut. Tu peux pas avoir Metallica puis Rammstein toutes les années. Fait que je trouve qu'on on a rapidement plafonné au niveau du rêve. Puis là, on a recommencé à donner, on a recommencé à descendre. Puis évidemment, ben quand l'économie est un petit peu moins favorable puis qu'on a de la misère à payer l'épicerie, se faire parler d'un rêve ou d'une vision de la ville, c'est peut-être moins vendeur. Mais si on n'a pas ça en politique... Je trouve qu'il nous manque l'essentiel.
Ben, c'est parce qu'on fait juste travailler à petite échelle. T'sais, Jean-Paul Lallier est arrivé avec le rêve justement de revitaliser Saint-Roch. Ouais. Il l'a réalisé. Puis honnêtement, c'est un leg extraordinaire pour Québec. Ah, imagine si on avait encore le toit sur le mail Saint-Roch, ça serait épouvantable.
N'importe qui a marché dans le mail couvert, qui sentait la pisse, sait très bien que Saint-Roch s'est amélioré même dans le pays.
C'est ça. Régis Labeaume est arrivé dans un moment particulier, c'est-à-dire qu'il a pris la relève de la mairesse Boucher qui était décédée.
Ouais.
Puis il a fallu qu'il opère le 400e à vitesse grand V parce qu'on s'en allait dans un mur.
Exact.
Il l'a sauvé. Après ça, son rêve, ça a été de dire « Nouvel amphithéâtre, les Nordiques ». Bon, mais au moins, quand tu regardes, tu dis « OK, on a un leg, c'est le centre Vidéotron, puis on dira ce qu'on voudra du centre Vidéotron. Cette aréna-là fait un job en crime, puis on est content à tabarouette de l'avoir à Québec. » Bon. Du côté de Bruno Marchand, comme tu l'as senti lors du débat, je le sens pas, ce rêve-là. T'sais, oui, il y a le tramway, oui, il y a la mobilité, mais je sens pas un rêve de donner à Québec quelque chose, t'sais, de en importance, quelque chose qui va changer vraiment la vitalité.
Le seul bout où je le vois à ce niveau-là, c'est au niveau des pistes cyclables puis de ce qu'on va appeler la mobilité. Tu sais... Ça en dit long pour moi quand, dans un magazine où on parle des villes les plus cyclables du monde, Québec est mise en valeur, puis que la réaction de Bruno Marchand, c'est de dire « ça, c'est notre Coupe Stanley qu'on vient de gagner ». Moi, j'ai rien contre ça là, qu'on développe pour les vélos et ainsi de suite, mais dans un contexte où l'automobiliste paye énormément de changements à Québec, puis qu'il a l'impression de ne pas avoir de retour sur l'argent qu'on lui demande d'investir, bon, on dirait que ça rajoute une couche d'insulte de se faire dire « Ouais, ben finalement, notre Coupe Stanley, c'est pas avec les Nordiques ou c'est pas avec telle chose. » Non, non, non.
C'est avec les pistes cyclables.
C'est vraiment avec les Bessiques puis avec les pistes cyclables.
Vois-tu, moi, mon rêve pour Québec, là, j'avais été candidat à la mairie, puis après ça, je vais vous entendre sur votre rêve pour Québec. Moi, mon rêve pour Québec, là, c'est que nos rues commerciales deviennent des cartes postales.
Ouais.
Pour que, c'est bon, quand je me promène à Québec, que je sois dans le Vieux-Québec, que je sois sur Cartier, que je sois sur Maguire, que je sois sur Saint-Joseph, je suis un touriste, puis j'ai... Hey, ah ouais, on se place ici, là.
Mm-hmm.
Avoir la photo, parce que ça va inciter les touristes à venir à Québec, ça va inciter les touristes à consommer un peu partout en ville, puis quoi de mieux que des photos cartes postales pour vendre une ville à l'étranger. Fait que moi, c'est mon rêve pour Québec, je voudrais ça. T'sais. Toi, Pascal, as-tu un rêve pour Québec?
Ben, on dirait que tu me demandes de réfléchir en dehors de la boîte. Ouais. Tu sais, pas quelque chose qu'on jase continuellement. Je pourrais parler des autoroutes, la façon dont ça pourrait être mieux organisé au niveau du transport en commun. Je trouve que c'est vraiment déplorable. T'sais, à Montréal, tu le prends, ou je comprends, t'as pas le choix, mais il y a un certain bonheur à le prendre. Là.
C'est clair.
Ça se passe bien, c'est efficace, mais ça a été travaillé sur des années. Fait que ça, je trouve que ce n'est pas très réalisable. Ce serait beaucoup pour, peut-être, au niveau fiscalité, au niveau économie pour les restaurants. Parce que moi, je pense que ça part beaucoup de ça. T'sais, on a vu avec la reconnaissance Michelin qui peut être déplorée sur plein d'affaires. On a du monde qui travaille fort ici à Québec. Mm-hmm. On a une économie qui roule beaucoup au niveau alimentaire. Ça fait en sorte que ça attire du monde. On a des gens qui travaillent fort. Puis c'est juste au niveau de la poubelle, aussi stupide soit-il, là, ils sont chargés à tonnes, mais c'est même pas calculé selon leurs propres besoins. Puis ils sont chargés des sommes faramineuses des restaurants quand ils en arrachent avec l'inflation.
Moi, je trouve que c'est un beau rêve que la ville de Québec devienne un lieu
gastronomique
d'importance,
parce qu'il l'est déjà.
Chicago et ça.
Puis Québec l'est déjà, c'est juste qu'ils ont les mains liées. Ça fait en sorte que les repas montent aussi pour les habitants. Fait que, tu sais, vous et moi, on ne peut pas en profiter comme on voudrait. C'est beaucoup, beaucoup le tourisme qui a un petit peu plus d'argent. Mais si on les aidait beaucoup mieux, puis qu'ils feraient partie de ces gens-là qu'on aide économiquement, puis sont souvent les oubliés gouvernementaux, ça aiderait, je pense, la Ville de Québec à rayonner. Les hôtels seraient plus pleins,
bon,
etc., etc.
Toi, Max Laroche, ton rêve, Québec?
Plus être obligé d'aller souvent à Montréal, voir des shows, puis on échappe tellement à Québec. Je sais pas dans le concret qu'est-ce qu'il y a à faire pour ça, mais j'étais curé de voir tout le temps à Montréal pour n'importe quelle band.
On remplirait-tu le centre Vidéotron,
mettons? Ben, c'est pour ça que je dis, tu sais, dans le concret, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Assurément qu'il y a des shows qui passeraient puis qui auraient un succès à Québec. Maintenant, pourquoi il le fait pas? T'sais, on peut pas forcer les bands à venir non plus, mais il y a sûrement quelque chose à faire pour avoir plus de shows ici. On est chanceux d'avoir le Festival d'été de Québec, là. Puis, tu sais, on a un festival comme Cigale, que j'adore aussi maintenant. Pis, mais reste que, tu sais, les Oshaga, le Lasso, le Vans Warped Tour qui va aller à Montréal aussi. Mm-hmm. Je vais passer mon été à Montréal encore, ça me fait chier.
Ben, vois-tu, moi, je peaufine ton rêve, là, avec le fait là, qu'il aurait fallu qu'autour du Centre Vidéotron, ça devienne une espèce de quartier des spectacles.
Ouais.
Avec le grand marché, tout le kit.
Je suis content que tu aies demandé aux autres avant, ça m'a permis de réfléchir un peu.
Ça m'a donné. Depuis tantôt que tu parlais, là, j'ai dû y donner un break.
Ça m'a donné un tas de réflexions supplémentaires. Moi, j'aime ça partir de ce qui marche, OK? Puis d'essayer de détendre ça un peu. Je regardais les chiffres du taux d'occupation des hôtels pendant le temps des fêtes. T'sais, c'est au-dessus de 90 %. Ça veut dire que la manne touristique, elle est là. Est-ce normal maintenant qu'avec 90 % de taux d'occupation dans les hôtels, ben la moitié de Grande Allée, ce soit des buildings vides ou des commerces fermés?
Non.
Ça, c'est la première question. Moi, je partirais de là. OK, comment est-ce qu'on fait pour faire en sorte que Grande Allée redevienne ce qu'elle a déjà été?
Mm-hmm.
Et maintenant, comment on fait pour prendre ce touriste-là qui vient à l'hôtel puis l'obliger à descendre dans Saint-Roch? Tu sais, le spectacle Son et Lumière qu'il y a à l'église présentement, le Aura.
Qui est extraordinaire, je suis allé le voir.
C'est peut-être une pièce du puzzle. Mm-hmm. Peut-être que de rajouter quelques destinations au niveau culinaire, destinations au niveau spectacle, un peu de variété, un peu de vie. Est-ce que le parc Jean-Paul Lallier peut faire partie de la donne en été, par exemple, avec un spectacle supplémentaire? Écoute, je ne sais pas. Puis l'autre aspect, j'aimerais qu'on ramène un peu la carte chauviniste à Québec. Puis moi, c'est quelque chose que j'ai dans la tête depuis un certain temps. Vivre à Québec, c'est pas juste payer tout le temps. J'aimerais ça qu'une fois de temps en temps, le citoyen de Québec puisse avoir un break. Puis je garoche quelques exemples comme ça.
Vas-y.
Pourquoi un citoyen de Québec qui paye son compte de taxes à Québec n'a pas un système de vente exclusif au festival d'été où le laissez-passer est moins cher puis que tu as plus de chances d'en avoir un? Pourquoi pourquoi un citoyen de Québec n'a pas le même genre de privilège quand il y a un spectacle au Centre Vidéotron, quand il y a un spectacle à Lanty?
Est-ce que ça serait un billet par personne, par exemple? Parce que là, l'histoire des revendeurs, on se ferait snapper. Là.
Ben écoute, moi, je me dis, avec toutes les technologies qui existent maintenant, si on est proactif, il y aurait moyen de trouver des choses comme ça.
Ben oui, mon rabais là, chez Eugène Allard, pendant Black Friday, je tournais à roue là, sur un ordinateur. Je te jure qu'ils savaient quelle adresse IP, puis je pouvais pas mettre un autre courriel, puis etc. Ils m'ont eu, là.
Un citoyen.
10% max.
Un citoyen de Québec qui s'abonne là, à l'application, c'est quoi? C'est Pilote pour le parking?
Copilote.
Copilote. Ouais, Copilote. Pourquoi il n'y a pas 10 stationnements gratuits en partant à partir du moment où tu restes à Québec? Moi, ce genre d'incitatif-là qui dit « Hey! » On le sait qu'on t'en demande de l'argent puis qu'on te fait chier avec la taxe au chat puis quand il fait frais dans le temps des fêtes, t'as le goût d'allumer ton foyer, mais regarde, voici du plus-value. Voici une carte qui va te donner des rabais dans 80% des restaurants de la ville de Québec à partir du moment où tu payes ton compte de taxe à Québec. Moi, j'exploiterais le fait que tu restes à Québec, t'as pas juste des obligations puis t'as pas juste des obligations de paiement. Tu vas avoir des breaks parce que tu es un citoyen et que tu contribues financièrement au succès de ta ville.
Tu vas avoir prendre des bénéfices.
À Québec.
Ben oui, ben pourquoi pas?
S'il vous plaît.
Ben oui.
Pouvoir prendre l'avion à Québec sans que ça te coûte 1200 de plus.
L'aéroport de Québec te paye une bière quand tu es un citoyen de Québec et tu arrives à l'aéroport. Ça a l'air niaiseux, mais j'ai pas.
Puis on a installé une microbrasserie qui vient de Québec dans l'aéroport.
Ben oui.
Puis on l'aide justement à voir. Non, ton idée fait beaucoup de chemin. Denis, vois-tu, on a plusieurs idées. Puis continuer 418-971-101. Avoir des appartements à des prix normaux pour que tout le monde puisse se loger. Je trouve que c'est un beau rêve aussi.
Ben oui.
Honnêtement, puis ce que j'aime de nos rêves, c'est qu'ils viennent tous s'entremêler. Tu sais, moi, je parlais de rue commerciale, carte postale, donc le commerce, le volet gastronomique encore là. Tu sais, on vient rechercher du commerce. Toi, tu parlais de place vide sur Grande Allée et d'ordonner de l'aura, de permettre aux citoyens justement de mieux consommer à Québec. Max qui allait avec un quartier des spectacles. C'est tout des choses vivantes dans lesquelles on aimerait ça participer avec nos chums, avec nos familles.
Ça doit déjà avoir été pensé, les gars, là. C'est impossible. Si on n'a pas fait ça, si on n'a pas donné un peu de bonbons aux citoyens de Québec, c'est parce qu'on ne pouvait pas.
Je le sais pas. Je sais pas. C'est
un
sûr
peu
que
sarcastique.
C'est plus facile de ramasser de l'argent que d'en redonner.
Oui. On ça, c'est clair.
On a vu comment ça a été compliqué là, de donner des billets d'autobus à des automobilistes. Là, mais puis. Je veux juste pousser ma réflexion plus
Vas-y.
Loin. Dans une grande ville comme Québec, à un moment donné, il va falloir recommencer à se parler les uns les autres. Puis moi, j'ai travaillé pendant 24 ans dans une station de radio qui est réputée pour faire rien que du chiolage puis du négatif. Mais moi, ce que j'ai fait le plus le fun en faisant de la radio, c'est la Nordique Nation. Puis il y a plein de monde qui ont trouvé ça niaiseux puis qui ont trouvé ça stupide.
Allez, marcher ses plaines!
Moi, c'est drôle, hein? La Nordique Nation, c'était quelque chose de positif où on a, entre autres, réfléchi à ce que ça prenait dans le nouvel aréna. En faisant le ménage pendant le temps des fêtes, je suis retombé sur le fascicule qu'on avait remis au maire Labeaume sur... Voici, nous autres, on s'est promenés à grandeur de l'Amérique du Nord dans des voyages sportifs. Et voici la liste de ce qu'on trouve important pour un nouvel aréna à Québec. C'est une modeste contribution, mais c'est quelque chose de positif. Et dans une station de radio réputée pour tout le temps s'arracher les cheveux puis dire que tout est de la marde, ben moi puis ma gang, puis on était une crise de gang, on a contribué de façon positive et constructive à essayer de faire en sorte d'améliorer notre ville. Et en plus-value, on s'est promené à grandeur de l'Amérique du Nord pour parler de hockey avec des tripeux de hockey à New York, au New Jersey, en Floride. On est même allé à Montréal. On est allé à Ottawa. ça commence à être le temps que les gens qui font juste roter le ballonnet, ben, recommencent peut-être à réfléchir à « ça, t'aimes pas ça, qu'est-ce que tu veux? Ouais. Qu'est-ce qui serait le fun? Qu'est-ce que toi, tu peux faire pour faire en sorte que la ville qu'on va laisser à nos enfants, on va pouvoir dire « on t'en laisse une pas pire mm-hmm. si tu veux rester ici. » Moi, c'est ça que je trouve important. Puis je commence à trouver que c'est pas parce qu'on n'a pas toutes la même vision qu'il faut s'engueuler puis se traiter de non. Retrouver la politesse dans les échanges. Retrouver la liberté de réfléchir par soi-même à essayer d'améliorer ta rue, améliorer ton quartier, améliorer ton secteur, contribuer positivement à ce qui se passe autour.
Ouais, au lieu de
rien que chialer comme un maudit boomer avec la boucane qui te sort des oreilles. Je sais pas. On mérite mieux.
Ouais, puis je vais boucler la boucle, si tu me permets, avec le fait que rêvons.
Ouais.
C'était du rêve.
Rêver mieux. Hein? Ouais, c'est ça.
Ouais, non, mais c'est vrai, c'était du rêve. C'est-à-dire les Nordiques vont revenir. Puis dans ce rêve-là, ben, vous l'avez poussé à la limite là, jusqu'à aller en Floride puis aller écœurer partisan du Canadien. Mais tu sais, vous l'avez poussé à la limite, écoute, c'était du rêve. Le rêve, ça amène du positif. Est-ce qu'on a cessé de rêver à Québec? C'est la question que je vais poser.
On a le droit de rêver, on a le droit d'être heureux, puis on a le droit de regarder autour de nous autres puis de dire, si ça marche pas, qu'est-ce que t'as à proposer de mieux?
Oui, t'sais? Exactement. Qu'est-ce que t'as à proposer de mieux? J'aime ça. Notamment pour le vieux colisier qu'il va falloir mettre à terre en mode.
Ça, c'est une autre affaire. C'est donc bien compliqué de bâtir une vieille cochonnerie.
Ils défont des stades aux États-Unis en 2 secondes et quart. Puis nous, le vieux colisier est encore debout.
Imagine-toi qu'après le dernier show de Metallica, on serait tous sortis autour.
Ben oui.
On aurait regardé ça tomber, là.
Hey, ça aurait été incroyable.
Les gars nous auraient fait 2 tonnes à l'extérieur, là, sur une scène extérieure avec le camion de Budweiser à côté.
Puis gars, je reviens avec ton idée, là. Là, c'était bière gratuite pour tous les citoyens de Québec.
Absolument! Ça aurait été une grande célébration. On aurait eu du fun. Oui.
Denis Gravel, merci de nous avoir fait rêver à Québec ce matin.
Hey, merci, les amis.
On se reparle demain dans le Pit Stop.
Allez.
Salut! C'était Denis Gravel dans le Pit Stop. On fait une courte pause à Boulevard 101 et par la suite, on revient avec l'essentiel de l'actualité avec Max Larouche et Pascal CV. Vous êtes à Boulevard 101, c'est Marceau le matin.
Le Pit Stop avec Denis Gravel, présenté